La mala musique. Musique de chambre en amateur. Au cœur de la Touraine. L'été prochain. À Loches, en Touraine, a lieu chaque été, en général pendant les 10 premiers jours du mois d'août, un stage de musique de chambre réservé aux musiciens amateurs adultes de tous âges et toutes nationalités, réunissant des personnes passionnées par la pratique de leur instrument en compagnie d'autres musiciens, puisque ce stage permet à tous les instrumentistes, bois et cuivre, cordes, piano, de travailler des œuvres en formation de chambre. Cela va du trio avec piano au septuor de vent, en passant par le quatuor à cordes ou le quintet avec piano, liste non exhaustive bien sûr. C'est-à-dire tout ce qu'offre l'immense répertoire de la musique de chambre sur plus de 3 siècles. Une très belle ville historique de Touraine, Loches, avec ses vestiges du Moyen-Âge et de la Renaissance. Un lieu de rencontre et de partage, une occasion de se perfectionner en compagnie de professeurs de très grande qualité, à la fois musicale, humaine et pédagogique. C'est tout cela que propose chaque été à Loches l'association Euromusica. J'ai rencontré pour nous en parler aujourd'hui 2 stagiaires et 2 professeurs. Et c'est d'abord avec Yves Simard que nous allons entrer dans la matière musicale de ce stage et son histoire. Une précision avant cela, les quelques instants du premier mouvement du trio des quilles de Mozart que j'ai placé en générique de cette émission étaient interprétés lors du concert des professeurs en 2020, donc ce ne sont pas des amateurs, par Katia Krivokotchenko, piano, que nous retrouverons dans quelques minutes pour une 2e interview, François-Xavier Bouton à la clarinette et Laurent Van Hennood au basson. Tous 3 donc professeurs lors de ce stage, l'équipe pédagogique comprenant à peu près 10 professeurs. Mais ouvrons d'abord notre micro à Yves Simard. Yves Simard, bonjour. Je crois que vous êtes de la première heure de ce stage de Loches qui a changé de nature il y a quelques années, mais qui après tout est la même histoire et une association comparable. Comment êtes-vous arrivé sur ce coup-là, si je puis dire?
Alors c'est un peu curieux. En fait, je suis clarinettiste et je participais il y a plus de 40 ans à un stage dans le centre de la France, à Toussy, qui avait été organisé par Guy Danguin, uniquement pour des clarinettistes. Et j'ai eu la surprise de retrouver là, comme professeur, un de mes amis d'enfance, avec qui j'allais à la pêche et avec qui j'allais au lycée, et qui est Jean-Louis Sajot, qui était clarinettiste au National. Et il a eu l'idée, à ce moment-là, de faire un stage, pas seulement pour les clarinettistes cette fois, mais pour d'autres instruments, bien qu'au début il y ait eu une majorité de clarinettes, mais enfin après ça s'est développé, et en particulier dans une maison de vacances qu'il avait autour du centre France aussi, et c'est lui qui a lancé donc ce stage, et tout naturellement nous avons repris nos liens d'enfants, et il m'a demandé de venir au stage pour faire des activités, et je me suis retrouvé donc dès la première année à ce stage qu'il avait fondé à l'époque.
Au démarrage vous étiez simple stagiaire ou bien vous étiez déjà professeur?
Non, j'y étais déjà comme encadrant, voilà. Oui. J'y ai fait des conférences, j'y faisais des cours, des petites activités, mais il y avait d'autres personnes parce qu'il avait trouvé un encadrement au départ. Et puis, très rapidement, certaines personnes sont parties pour des raisons tout à fait normales et habituelles. Et donc, j'ai pris un peu plus de place. Je me suis occupé en particulier d'une chorale. Et puis ensuite, j'ai dirigé l'orchestre quand Michel Falcona, qui à l'époque dirigeait l'orchestre, a dû s'arrêter. Et puis, il y avait une grande demande d'autres musiciens, d'autres stagiaires plutôt, pour avoir des compléments de musique, des choses qu'ils avaient oubliées, les gammes, les mesures, les intervalles, un peu d'harmonie. Et donc, tous les matins, je me suis mis à faire des cours pour ces musiciens, un peu à la demande.
Mmh. Au fond, ce qui est très intéressant, pour moi qui connais le stage depuis déjà une bonne douzaine d'années, c'est que vous êtes à la fois celui à qui l'on peut tout demander, mais en même temps, vous êtes presque l'âme du stage. C'est-à-dire, on a l'impression que sans vous, les choses ne tiennent pas ensemble.
C'est pas tout à fait vrai, parce que l'encadrement auquel je ne participe pas véritablement, les choix des œuvres, par exemple, je ne le fais pas, les enregistrements, tout ça est très long, des stagiaires, je ne le fais pas non plus. Donc, je m'occupe plutôt de tout ce qui est musique pratique, à la demande des gens, même s'il y a une histoire d'instrument à réparer, je peux le faire. Voilà, c'est un peu le couteau multilame du groupe.
Oui, mais, je n'osais le dire, je me demandais si j'allais oser employer le mot de couteau suisse.
Je sens un peu ça, mais j'ai le plus profond respect pour mes collègues et mes amis qui font un travail énorme, en particulier pour contacter tout le monde de la finance, le monde des autorisations en ville. Tout ça est très très complexe et je ne maîtrise pas du tout. Moi, j'ai une place agréable et j'ai peut-être la place la plus agréable. Que diriger une chorale et un orchestre, c'est vraiment merveilleux.
Oui, et puis vous le faites avec énormément de... moi, je ne joue pas d'un instrument d'orchestre, mais pour avoir participé à la chorale il y a quelques années, j'avais été frappée de la façon dont vous concevez, pour des musiciens qui ne sont pas du tout forcément chanteurs, en général, ils ne le sont pas, des harmonisations ou des adaptations pour petits groupes, d'œuvres qui sont pleines de charme mélancolique ou divertissante. C'est vraiment du travail sur mesure pour des amateurs.
C'est sur mesure. Parce que au mois de mars ou avril, les organisateurs me communiquent la liste des gens. J'en connais déjà une bonne partie. Les autres, on les cerne un peu, et donc je peux adapter à partir de mai-juin tout le programme pour les gens. C'est un peu du sur-mesure pour tous ces gens-là. Et puis c'est très important de faire chanter des musiciens. Enfin, des gens. Les chanteurs sont aussi des musiciens, mais des gens qui au départ ne font que l'instrument et qui souvent oublient que la voix est le premier instrument du monde, le plus simple à utiliser. Et puis, deuxièmement, hélas, certains méprisent également la chorale. Et j'ai eu la joie de voir de nombreuses personnes qui sont venues au stage me dire ensuite, je me suis inscrit ou inscrite dans une chorale, et c'est merveilleux, et c'est peut-être encore mieux que l'orchestre.
Oui, parce que finalement, l'orchestre, pour lequel d'ailleurs, au passage, parce que vous parlez de tout cela très modestement, mais tout de même, ça doit être un travail d'enfer, d'adapter pour 8 clarinettes mais 2 altos et pas de hautbois des œuvres orchestrales du grand répertoire.
C'est un très très gros boulot, c'est un boulot assez long. Ça n'est pas très compliqué quand on a l'habitude de le faire, mais c'est assez long parce qu'on est obligé de penser à toutes les possibilités. Celui-ci ne peut pas jouer avec plus de 3 dièses, cet autre-là n'a pas les doigts pour faire suffisamment de double croche, etc. Donc effectivement, ça demande des obligations, mais quelquefois peut-être aussi que la musique en souffre un peu. J'essaie de l'adapter au mieux pour ne pas dénaturer Beethoven, Mozart ou les autres.
Vous parliez, Yves Simard, tout à l'heure, là aussi, avec vraiment beaucoup de modestie, d'un simple rôle pratique, mais vous avez vraiment aussi, quoi que vous en disiez, le rôle d'apporter une sorte de vision avec une hauteur de vue sur la culture musicale, et d'ailleurs la culture en général, parce que vous faites aussi des conférences sur des sujets d'histoire ou autres qui n'ont absolument rien à voir avec la musique. Alors pourquoi ?
Alors, tout simplement parce qu'il y avait, il y a bien longtemps, il y a une trentaine d'années, beaucoup de gens ne savaient pas quoi faire le soir. Nous étions dans un local très coupé de la ville et beaucoup de gens s'ennuyaient. Et comme je faisais de la radio chez moi, à Auxerre, dans ma bonne ville de Lyon, j'ai eu l'idée de reprendre ces conférences d'histoire pour occuper un peu les gens. Puis je me suis aperçu que tout le monde était intéressé par l'histoire, et en particulier par les personnages ou par des événements. J'essaie de trouver des événements moins connus. Évidemment, ça n'est pas les victoires de Napoléon ou Louis XIV. Bon, ce sont des choses un peu plus pointues ou un peu plus drôles ou un peu plus tristes, hélas, dans l'histoire. Et beaucoup de gens, effectivement, sont intéressés par tout ça, et ça fait discuter aussi beaucoup les gens les uns avec les autres. Et comme il y a souvent des étrangers, des gens qui ne sont pas français, mais qui parlent français, eh bien, il y a des rapports intéressants à avoir auprès d'eux.
Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, c'est une des... Enfin, à mes yeux, mais je suppose que vous partagerez cela, c'est une des spécificités très séduisantes et très belles de ce stage de musique amateur. Non seulement, donc, vous le disiez, le mélange des âges, mais vraiment le mélange des nations. Il y a des gens qui viennent d'Israël, des États-Unis, enfin, mais... souvent du bout du monde pour assister à ce stage.
Il y a une dame qui vient du Kazakhstan. Enfin, c'est assez extraordinaire. Mmh. Oui, pour moi, j'ai été étonné de la popularité de ce stage, et puis de la fidélité des gens qui reviennent, nos amis allemands qui reviennent depuis 20 ans, 30 ans, des amitiés qui se sont nouées entre des musiciens français, des musiciens allemands ou hollandais même, et puisqu'ils se retrouvent quelquefois pendant les vacances et qu'ils jouent ensemble en quatuor ou en quintette.
Oui. D'ailleurs, vous parliez du fait que, grâce au fait d'avoir découvert la chorale dans le stage de loge, grâce à vous, les gens s'inscrivaient à des chorales ensuite dans l'année. Il y a un peu le même phénomène avec des gens qui se rencontrent, qui n'avaient jamais joué avec, je sais pas, un cor ou un hautbois, et qui se retrouvent, pour peu qu'ils habitent dans la même région, pour démarrer un répertoire nouveau. C'est très fascinant, vraiment.
Et à chaque fois, je suis très ému par les témoignages de ces gens-là. Et plus encore, si vous voulez, des gens qui ne se sont inscrits comme débutants musicaux, c'est-à-dire qu'ils ne savaient rien. Donc on a commencé pendant tout le stage à apprendre do, ré, mi, fa, sol, battre la mesure, chanter des notes, les noires, les blanches, etc. Enfin, tout ce que font les musiciens qui débutent. Et ensuite, ils ont demandé des conseils. Alors j'ai dit, pas le violon, vous êtes un peu âgé, essayez par exemple le basson, etc. Et il y a des gens qui se sont donc inscrits et qui maintenant reviennent et qui jouent bien, voire très bien. J'ai en ce moment dans l'idée une oboïste, par exemple, qui a commencé à notre stage et qui a trouvé un environnement agréable et qui pensait ne jamais pouvoir faire de la musique. Et elle revient après 3 ou 4 ans de hautbois et elle joue premier hautbois dans l'orchestre. Et ça, c'est extraordinaire.
Oui, et puis il faut préciser pour l'auditeur qui n'aurait pas peut-être saisi que ces gens-là s'inscrivent à ce qui est en fait des cours d'initiation à la musique.
Absolument.
Ceux-là ne sont pas des instrumentistes, évidemment, au démarrage.
Tout. Alors, ces gens-là à qui je pense, il y en a une dizaine à peu près, n'avaient jamais lu une note des musiques, ni tenu un instrument de musique. Ils sont venus pour découvrir la musique. Quelquefois, c'est le conjoint, par exemple, qui vient, ou quelquefois un ami qui vient et qui dit, je verrai bien, et qui, d'un seul coup, se trouve pris dans une passion qu'il n'imaginait même pas.
Alors, il y a quelque chose aussi, Yves Simard, qui vous concerne aussi au premier chef, de même que les professeurs des différents groupes instrumentaux, qui est le fait qu'à la fin du stage, mais aussi tout au long du stage, tout le monde est amené, et d'ailleurs les gens jouent le jeu sans trop de trac, parce qu'après tout on est tous à la même enseigne, à se produire en public. Comment vous ressentez cela, vous qui êtes...
Alors moi, je pense que l'obligation du musicien, c'est de se produire en public, c'est de jouer en public, jouer pour soi. Ça me paraît un peu touché à la maladie mentale. mais oui, je crois que c'est faire plaisir, se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Et même si, et on pardonne bien entendu les erreurs, la plus grosse difficulté étant d'ailleurs de se produire devant des gens qui ne connaissent rien à la musique, parce qu'eux ne savent pas les difficultés et ne pardonnent pas. Jouer devant des musiciens, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils se disent, si j'étais à la place, j'aurais aussi peut-être peur et puis je pourrais faire les mêmes fautes aux mêmes endroits. Et donc, je crois que c'est nécessaire de jouer en public, ça donne un petit peu d'adrénaline, et puis ça donne des bornes en disant, j'ai pu jouer le deuxième mouvement du concerto de Mozart ou de Mendelssohn, j'ai pu jouer le quintet, la truite, etc. Donc on a une idée du travail qu'on a fait, et du travail qui reste à faire.
Dans ce Sextuor de Poulenc, nous allons vous jouer un extrait du premier mouvement, Allegro vivace, et le deuxième mouvement en intégralité, divertissement, et un petit bonus.
Enregistré en août 2020, lors de l'un des concerts des musiciens stagiaires qui ponctuent chaque été le déroulé du stage, c'est le premier mouvement Allegro Vivace du Sextuor pour vent et piano de Poulenc, qui est donc ici notre premier extrait musical spécifiquement joué par des musiciens amateurs. Clarinette, corps, basson et piano, tels étaient les instruments joués par ces six musiciens pour le Sextuor de Poulenc lors du stage Euromusica, édition 2020. Et c'est Katia Krivokochenko, pianiste et pédagogue, qui nous livre à présent sa propre expérience en tant que professeur du stage de Loche. Katia Krivokochenko.
Tous les professeurs qui sont présents, donc enseignants à ce stage, sont des chambristes. Passionnés, évidemment, et qui ne rêvent que de transmettre leur passion à tous ceux qui veulent bien y prendre part. Donc voilà, cette réunion de plusieurs âges, de plusieurs nationalités, niveaux différents, mais qui ont tous le même but, c'est ça qui nous attire aussi, et qui mettent à l'épreuve nos capacités de musiciens. Je parle là en place de la part des professeurs, qui remettent en question nos capacités à nous adapter à tout cela, et aussi qui nous obligent à connaître d'autres factures d'instruments, d'autres spécificités techniques, et avoir une écoute globale, moins pour l'instrument, pour un instrument spécifique, mais purement musical et général. Et donc, on est bien évidemment dans un groupe confronté à des difficultés de tout un chacun, mais dans un esprit, dans le but d'en faire quelque chose de commun et avoir un son et pas quatre instruments ou trois instruments, cinq instruments, etc. réunis. C'est, voilà.
Quelque chose de commun, un son, c'est bien sûr l'enjeu de tous les chambristes professionnels dont vous êtes du plus haut niveau. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que cette histoire de communauté, c'est comme s'il y avait un lien direct entre le commun au sens musical et le commun au sens humain. Et je trouve que dans ce stage de Loche, pour en avoir fait quelques autres, parfois à l'étranger ou certains en France, il y a quelque chose qui est vraiment très rayonnant dans ce lieu pour moi, et je me demande quel est votre point de vue. C'est le fait que on arrive tous amateurs de niveaux divers, mais quand même vraiment amateurs, presque aucun d'entre nous n'a jamais eu un projet professionnel avec la musique, et on a affaire à des musiciens de votre niveau. En plus, vous êtes russe et donc vous avez eu la formation russe de piano, ce qui veut dire des sommets de discipline et d'exigence quand même plus qu'ailleurs, je crois. C'est un peu la réputation.
C'est vrai que c'est au niveau de la discipline, c'est très exigeant. Et ultra professionnalisant déjà dès le jeune âge.
Et du coup, je trouve très beau qu'avec ces formations-là, et puis on a affaire pour les autres professeurs à des musiciens des grands orchestres français, donc c'est aussi là une habitude de tenir comme ça son métier de façon très, très exigeante. Et malgré ça, à la fois vous exigez des stagiaires beaucoup, et à la fois dans une bienveillance extrême. Comment c'est compatible ?
Eh bien, je crois que vous avez vraiment dit le mot qu'il fallait, c'est la bienveillance. Puisque, encore une fois, ça nous réjouit tellement, nous les professeurs, quand bien même on serait très exigeants aussi sur la qualité. Et c'est pour ça que vous, les stagiaires, vous sortez bien fatigués de ce stage, puisque nous exigeons beaucoup de vous aussi, sur le plan musical, technique, d'investissement, d'attention, aussi d'emploi du temps, qui est très intense, on fait beaucoup de choses. Mais à la fois, c'est une fête, avant tout, de la musique et de l'amour pour la musique. Et c'est très enrichissant. Pour nous aussi, les professeurs, on donne beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais on en reçoit tout autant, voire c'est décuplé l'énergie qu'on reçoit de nos stagiaires.
C'est parce que c'est vous ressentez génial. L'enthousiasme des gens qui
sont
là.
Ah oui,
c'est plus souvent de l'enthousiasme que de l'anxiété.
Les deux, j'imagine. Et puis lorsqu'il y a un peu d'anxiété, c'est un peu de trac, tout simplement, lorsqu'on doit se produire, eh bien on est là avec notre expérience justement de musicien, car nous avons aussi le trac lorsqu'on joue, et nous avons été jeunes musiciens aussi, donc tous ces souvenirs-là sont là pour nous, donc on peut transmettre notre gestion de ces éléments qui sont pas forcément très, très faciles à gérer au moment de jouer, mais on a des choses à transmettre et on est très heureux de les transmettre.
Cette transmission dont parle à l'instant Katia Krivokotchenko, elle passe bien sûr également par l'exemple, si l'on peut dire, et en particulier lors du concert des professeurs qui a lieu à Loche au cœur du stage Euromusica. Enregistré dans ce cadre, nous écoutons ici Catherine Méchin et Katia Krivokotchenko, toutes deux pianistes et professeurs de musique de chambre qui font partie donc de la grande équipe des professeurs du stage de Loche, dans une transcription pour piano à quatre mains de la danse espagnole numéro 1 tirée de l'opéra La Vida Breve, La Vie Brève de Manuel de Falla.
Thank you.
parlé, Katia Krivokoshenko, de jouer en public, ce dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est qu'en effet, ce stage a aussi ceci de spécifique, qu'on y joue en public. Dès qu'un morceau est prêt pour un groupe, il est amené à le jouer devant les autres. En général, le public est fait presque uniquement des stagiaires et des professeurs. Parfois, j'ai le souvenir qu'il peut y avoir parfois des gens de passage dans la ville, selon le lieu où on joue. Alors cette expérience du public, elle est aussi, pour beaucoup des stagiaires, quelque chose de très nouveau. Parfois, pour certains musiciens qui n'ont pas eu l'occasion de jouer chez des amis devant un vrai public, c'est une première, en fait, de jouer devant les autres.
Oui.
Comment vous réagissez à ça quand vous voyez qu'il y a sûrement des gens réticents?
Toujours. Chaque année, il y a des gens réticents. Eh bien, l'énergie du groupe aide pour cela, puisque ça n'est toujours pas un récital.
On n'a pas sur
voilà.
sa propre tête.
Exactement, le poids de tout. Et on peut compter sur les copains aussi, pour nous rebooster, pour prendre le relais lorsque c'est nécessaire. Le professeur est toujours à côté non loin de ses stagiaires, en sécurisant la moindre chose. Donc je pense que dans l'absolu, les stagiaires se sentent quand même, au moment où ils ont enfin décidé d'aller sur scène, ils se sentent en sécurité. Et lorsqu'ils reviennent l'année suivante, ce qui est beaucoup le cas, heureusement, nous en réjouissons, eh bien, l'année suivante, ils savent que ce n'est pas si difficile et si effrayant, et on reçoit énormément de l'audience qui est là aussi.
En plus, c'est vrai que le public qui est là, comme la majeure partie des gens qui sont là, ce sont des stagiaires eux-mêmes, on est frappé par le fait que quand on fait de la musique soi-même, que ce soit dans un stage ou ailleurs, en général, on est très bienveillant aux autres parce qu'on sait ce que c'est. En fait, c'est souvent les gens qui ne font pas de musique qui ne supportent pas la musique des amateurs.
Et oui.
Parce qu'ils ne se représentent pas quel intérêt de jouer de façon imparfaite.
Et n'y voit peut-être pas un intérêt souvent purement musical,
c'est-à-dire purement esthétique.
Voilà. Et c'est la joie d'entendre la musique, d'autant plus dans la situation actuelle. Oui. Voilà, on y goûte avec autant de gourmandise. Hein. À chaque note, chaque sourire, chaque geste échangé, chaque ambiance, c'est particulièrement beau d'entendre ça.
Ouais. Est-ce que vous diriez, Katia Krivokoshenko, que dans votre expérience musicale personnelle, c'est-à-dire vraiment d'une pianiste de haut vol qui s'est affrontée aux œuvres les plus difficiles, l'expérience de la pédagogie, elle apporte aussi quelque chose à votre art de pianiste dans la solitude devant votre piano?
Évidemment, puisqu'on quelque part, on se projette dans ce qu'on entend, évidemment, et on se dit, on se questionne comment nous, on ferait à la place de tel ou tel stagiaire, sans parler même de la particularité de l'instrument. Et on s'entend de ce fait-là, presque d'extérieur, en fait. On a une écoute globale de ce qu'on pourrait entendre en tant que... On se projette dans le rôle du spectateur, de l'auditeur. Eh bien, cela aide énormément à jouer ensuite. Puisqu'on a cette écoute-là et on sait ce que ça peut donner. Voilà, c'est enrichissant aussi sur le plan professionnel, hein. C'est personnel, hein, professionnel, j'entends bien.
Ça paraît, enfin, je le crois, évidemment, parce que c'est flagrant quand on va dans ce stage de loge, on voit bien que les professeurs sont aussi heureux d'être là que nous, donc ça doit dire quelque chose de réel et de profond, mais en même temps, ça reste toujours pour moi une interrogation... assez admirative de comprendre ce qu'il peut y avoir comme lien entre la pratique d'un musicien qui maîtrise et puis avoir affaire à des gens qui ne maîtrisent pas. Mais c'est parce que je n'enseigne pas, moi, et je n'ai jamais enseigné.
Oui,
ça m'échappe, ce
plaisir-là.
C'est
le propre de la pédagogie, de transmettre. De transmettre, et c'est... quand on aime quelque chose, on a envie de le transmettre. C'est dans
tout
la nature
simplement.
Humaine, je pense, tout simplement, oui. Après, on est pédagogue ou pas, hein. C'est, effectivement, tout le monde n'est pas obligé d'être professeur, et il y a des gens qui sont plus prédisposés pour cela que d'autres, ils trouvent des mots ou des astuces, des techniques, des...
Et puis des types de relations.
Aussi, bien sûr, c'est une question de relationnel, évidemment, voilà, donc c'est les personnes qui sont là, les professeurs qui sont là, ils sont passionnés par la pédagogie, de la musique, et par les rencontres, parce que ça, comme vous avez dit, c'est un lieu extraordinaire de rencontre aussi, d'âge et de nationalité différentes. Et le stage dans sa version première, hein, qui existe déjà depuis 40 ans, mais qui était une autre association et dont nous avons repris l'esprit pour cette nouvelle association, Euromusica, eh bien, initialement, le stage était très très petit, et puis a commencé à grandir, et la réputation de ce stage a grandi avec les années, voilà. Et il est devenu international petit à petit. Donc voilà, tout ça c'est extraordinaire aussi, et ça nourrit aussi l'apprentissage et la pratique de la musique pendant le stage, puisque on est confronté à des cultures aussi différentes, donc qui viennent nourrir nos visions des choses, les techniques différentes, même en parlant d'instruments, voilà, de cordes, de vent, c'est extrêmement enrichissant.
Thank you.
enregistré en répétition l'été 2020, nous écoutions le début du dernier mouvement du trio des quilles, Köchel 498 de Mozart, pour clarinette, alto et piano, par trois musiciens amateurs participant du stage de Loche. Et c'est une stagiaire clarinettiste, Isabelle Lerouge, que nous avons justement rencontrée et que nous allons écouter maintenant. Elle fait également partie de l'équipe des organisateurs bénévoles de ce stage, qui en prépare tous les éléments en amont et en assure le bon déroulement pendant les 10 jours que dure le stage. Cette équipe très chaleureuse est constituée de musiciens stagiaires et de professeurs. Isabelle Lerouge commente pour nous son expérience du stage et nous décrit ce qu'elle y a découvert et savouré.
C'est vrai que c'est un stage où on a vraiment un grand plaisir à se retrouver d'année en année. Et d'ailleurs, quand le premier jour arrive, il y a une sorte d'émulation, de joie de se retrouver. Et ça, c'est assez rare, je pense, dans les différents stages. Bon, c'est dû au fait aussi qu'il y a beaucoup de stagiaires qui reviennent d'année en année. Mais même les nouveaux, à la fin du stage, nous font part de leur plaisir d'avoir partagé tous ces moments avec nous.
En plus, il y a un pot d'accueil, c'est du détail, mais quand même, ce n'est pas tout à fait un détail. Il y a vraiment un accueil le premier jour.
Oui, il y a un accueil. Alors, c'est l'occasion de se retrouver. C'est l'occasion pour les nouveaux aussi de faire la connaissance des professeurs et de commencer à créer des liens. Alors, ces liens, en fait, ils existent. Et ça aussi, c'est un peu une particularité de ce stage. C'est que, en fait, le stage commence avant le stage. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le stage, chaque musicien à les œuvres qu'il doit jouer pendant le stage un mois environ avant le début de celui-ci. Et en fait, on favorise les échanges entre les musiciens d'un même groupe pour qu'ils puissent s'organiser. Et quand ils arrivent au stage, en fait, ils ont déjà l'impression, même les nouveaux, de connaître déjà des personnes du stage. Et c'est très important, je pense, parce qu'ils n'arrivent pas dans un contexte totalement inconnu, et ça participe déjà à créer des liens avant même que le stage commence.
Alors, vous parlez de façon très belle et convaincante de la musique comme partage. Bon, c'est une chose qui paraît évidente, mais en même temps, si l'on songe que, par exemple, moi, pour employer un exemple que je connais, je suis pianiste, moi, je n'ai découvert réellement le partage de la musique de chambre précisément qu'en commençant à assister à ce genre de stage et du coup à faire des rencontres. Vous, comme clarinettiste, vous aviez l'habitude de la musique de chambre déjà dès le début de l'apprentissage de votre instrument ?
Alors, pas du tout, à vrai dire. J'y suis venue un peu par hasard. En fait, moi d'abord, c'est comme vous. J'ai commencé la musique petite par le piano. Et j'ai trouvé que c'est un très bel instrument, hein, en plus très complet. Mais par contre, on est assez solitaire. En plus, j'ai à un certain âge, donc j'ai commencé le piano il y a déjà un moment. Et les pianistes dans les conservatoires étaient quand même très seuls, participaient très peu à du collectif. Après, donc, j'ai commencé un autre instrument d'orchestre, justement pour pouvoir jouer avec d'autres et avoir ce partage qui nous manque un peu en tant que pianiste. Et j'étais surtout dans des orchestres. Alors bon, la clarinette, il y a beaucoup de clarinettistes. C'est plus facile d'intégrer des orchestres d'harmonie que des orchestres symphoniques, parce que dans les symphoniques, il y a très peu de vent aux clarinettistes.
Des orchestres d'harmonie, rappelons ce que c'est pour les auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, un orchestre d'harmonie.
Alors, un orchestre d'harmonie, c'est un orchestre complet, un peu comme un symphonique, sauf qu'il n'est composé que de vent. Donc, quelque part, les clarinettistes remplacent les violons, les saxophonistes, les altistes. Il n'y a que des instruments à vent. Mais c'est quand même un orchestre complet qui doit se distinguer clairement de ce qu'est une fanfare. Voilà, et il y a des œuvres qui sont composées spécialement pour harmonie. Alors, je crois que, je ne suis pas forcément une spécialiste, mais il peut exister dans les harmonies quand même une corde qui est la contrebasse.
Ah oui.
Mais en règle générale, c'est la seule.
Vous avez commencé donc par l'orchestre en tant que clarinettiste, et la musique de chambre est venue après ?
Mais en fait, c'est un peu justement grâce à ce stage où j'ai vu qu'il y avait donc la possibilité de faire la musique de chambre, ce que je ne connaissais pas vraiment. Je ne connais pas vraiment le répertoire de la musique de chambre, jouant plutôt en orchestre et puis écoutant plutôt de la musique symphonique. Et en fait, j'ai retrouvé un réel plaisir et un plaisir très différent de ce qu'on peut vivre en orchestre, parce que c'est des petits groupes et qu'on est quand même assez exposé. Alors c'est une responsabilité quelque part, hein. Mais quand vous êtes dans un orchestre, vous êtes avec plusieurs instruments, même instrument que vous, et bon voilà, donc votre place dans l'orchestre n'est pas, enfin à moins d'être faire des parties solo, vous êtes quand même assez fondu dans la masse. En musique de chambre, en fait, on est un peu chacun à un moment donné soliste, et la cohésion qu'il doit y avoir dans le groupe doit être très importante pour qu'in fine, il y ait vraiment une osmose qui se crée entre les musiciens.
Et de ce point de vue-là, comment vous commenteriez la façon de travailler des professeurs à Loche pour obtenir cette cohésion à la fois amicale et musicale ?
Alors déjà oui, je trouve que ce stage est vraiment a vraiment des qualités, c'est que les professeurs sont très proches des stagiaires. Bon, c'est peut-être aussi le fait que le stage est quand même composé essentiellement d'adultes, hein, puisque on accepte les jeunes qu'à partir de 16 ans, et en plus il faut qu'ils soient sous la responsabilité d'un adulte parce que l'association n'est pas organisée pour recevoir des enfants. Et il y a une grande complicité, je trouve, entre les stagiaires et les professeurs, ce qui n'est pas toujours évident dans des stages avec des professionnels. Et ils sont très proches de nous et ils sont très bienveillants et ils essayent vraiment de nous faire progresser tout au long du stage, puisque en fait l'objectif à la fin, c'est de pouvoir chacun jouer son morceau en concert.
Devant les autres stagiaires en général.
Voilà, devant les autres stagiaires, toujours avec cette bienveillance. Hein. C'est-à-dire que, bon, au départ, ça peut stresser un peu, mais c'est aussi un challenge un peu humain et un challenge personnel, hein, de faire ces concerts. Mais en règle générale, la bienveillance fait que, bon, voilà, il n'y a jamais de compétition entre les groupes. Il n'y a jamais de jugement qui est fait, et en règle générale, ça se passe toujours très très bien, et finalement, on est plutôt content à la fin quand on a pu jouer son œuvre et faire part du travail qu'on a fait pendant tout le stage.
La fin du trio des quilles de Mozart par les mêmes musiciens amateurs que précédemment, enregistré en répétition lors du stage de musique de chambre Euromusica l'été 2020. J'ai rencontré enfin un autre clarinettiste stagiaire, Pierre Gilles, décidément cette émission est placée sous le signe de la clarinette, qui nous parle d'abord de l'expérience pour un amateur de jouer en public.
J'ai toujours une appréhension quand je dois passer sur scène, mais ceci dit, c'est quelque chose que j'aime. Donc, c'était les
débuts. L'un compense l'autre.
L'un compense l'autre, mais on passe vraiment sur scène. Hein. C'est-à-dire qu'on est, on a la chance d'avoir une très belle salle, une salle polyvalente à Loches, avec une vraie scène, avec un éclairage pro et un public.
Un très bon piano.
Voilà, un très bon piano. Et donc c'est une réelle expérience, voilà. Après c'est réussi plus ou moins, mais on en sort content parce que on a eu tout un travail de préparation avec l'ensemble de musique de chambre, et quand on arrive sur scène c'est un ensemble qui pour mes expériences était déjà bien soudé, voilà.
En plus, il y a un élément qui, pour moi, qui est participé aussi au stage et très sécurisant, c'est le fait qu'en général, le professeur est sur la scène. Et si jamais il y a un pépin, ce qui arrive quand même souvent pour des amateurs, que tout d'un coup, l'un ou l'autre perd le fil, ou tout le monde, il rattrape la chose en disant, tiens, reprenez là. Enfin, tout le monde joue le jeu avec beaucoup de... C'est bonhomme,
oui,
quoi,
c'est
de
ça, bonhomie. Oui, on a le droit de se tromper, ça c'est clair, et on n'est pas stigmatisé ou puni parce qu'on s'est trompé. Au contraire, il y a là aussi une bienveillance des autres stagiaires qui vous écoutent, parce que, comme vous le disiez, on est des amateurs, on est là pour travailler la musique, mais on est là aussi pour se faire plaisir, et donc... on reste dans un cadre très
tranquille.
Très tranquille, oui.
Qu'est-ce que vous diriez justement sur le rapport entre vraiment le travail musical, qui est quand même assez exigeant, même si très bienveillant de la part des profs, et le côté vacances? Ça reste des vacances?
Oui, alors ça reste des vacances parce qu'il y a une ambiance générale de vacances.
C'est l'été.
Il fait beau, on est dans un cadre qui est agréable, on a des moments de détente, il y a d'ailleurs des jours off aussi, enfin des jours sans travail,
prévus
pour ça, pour se reposer, ou dans la journée, on peut s'organiser aussi pour avoir des moments calmes. Mais les séances de travail sont des séances assez intenses, c'est 2 heures. 2 heures d'ensemble, voilà, donc tout le monde a, dans la mesure du possible, travaillé sa partition, même si la première répétition c'est un déchiffrage, parce que c'est un déchiffrage d'ensemble, l'exigence des professeurs, les professeurs essayent de nous pousser au maximum, et moi j'en suis toujours ressorti en ayant appris beaucoup de choses.
Maintenant qu'on est, pour ce qui est de 2020 en tout cas, presque combien, 9 mois ou 8 mois après, comment ça résonne ce moment de Loche 2020? Bon, c'était particulier à cause du Covid et ça le sera peut-être encore l'été prochain.
Oui, bien que alors le Covid a bien sûr une influence sur le stage, mais toutes les... Toutes les précautions sanitaires avaient été prises, que ce soit au moment du repas, au moment des concerts. Et donc, le stage a pu se dérouler, malgré tout, dans de bonnes conditions. Sinon, comment ça résonne? Ça résonne parce qu'on pense au prochain stage et on pense à la préparation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut proposer les œuvres qu'on a envie de jouer. Voilà, c'est moi ce que je ne savais pas la première année, bien sûr. Donc la première année, on m'a proposé des œuvres que j'ai acceptées. Mais à partir de la deuxième année, comme on
connaît plus de gens,
on connaît le mode de fonctionnement du stage, on peut proposer des œuvres ou des personnes peuvent vous proposer des œuvres pour jouer ensemble.
Et pour clore en beauté cette émission consacrée à l'association Euromusica, stage international de musique de chambre amateur de Loches, je vous propose d'écouter le Concertstück opus 73 pour 2 clarinettes et piano de Mendelssohn, enregistré lors de l'un des concerts des stagiaires pendant le stage 2020. mes quatre invités pour leur disponibilité et leur aide à la préparation de cette émission, ainsi qu'à Catherine Méchin. Les inscriptions sont ouvertes pour le stage 2021, qui aura lieu du 2 au 12 août prochain à Loches. De plus amples informations sur le site de l'association Euromusica, en un seul mot, .com, ou en écrivant à info@euromusica.com. À bientôt.